Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et soyez les bienvenus sur France Inter. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 15 avril. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, les premières précisions sur la reprise progressive des cours le 11 mai prochain. Même si de nombreuses questions restent encore à trancher, nous irons au Danemark où justement les écoles rouvrent aujourd'hui. Les autres titres, Agnès.
Des hôtels réquisitionnés pour accueillir des malades du Covid-19, c'est une piste pour limiter la propagation du virus. Condamné en France, Amazon ne s'est jamais aussi bien porté aux États-Unis. Une nouvelle polémique raoute à Marseille où le virus serait en passe d'être éradiqué selon le chercheur. Et puis un tour de France au temps des vendanges.
Invité de France Inter ce matin à 7h50 avec vous Léa.
Elle a la lourde tâche de gérer l'une des régions les plus touchées par le virus. L'Île-de-France sera-t-elle prête pour sortir du confinement le 11 mai? Pense-t-elle que les écoles, que les lycées pourront rouvrir économiquement? Comment la région pourra-t-elle se relever? La présidente d'Île-de-France, Valérie Pécresse, sera avec nous à 7h50.
Et à 8h20, Léa, nous recevons deux invités dans le grand entretien de la matinale. Le professeur de santé publique à l'Université de Genève, Antoine Flao, et le chef du service de parasitologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. J'ai nommé Renaud Piarou. Vos questions à nos deux invités dès maintenant. Le standard est là. 01 45 24 7000.
France Inter. Qui confiner? Qui tester? Comment rouvrir les écoles sans risque? Quel commerce relancer? Si l'intervention du chef de l'État lundi soir a répondu à la question sur la date du début du déconfinement, elle a soulevé une multitude d'autres questions auxquelles le gouvernement va devoir répondre dans les jours qui viennent. Hier après-midi, déjà à l'Assemblée, les ministres ont été assaillis de questions. Laurence Perron.
La question phare, hier, c'était la reprise de l'école. L'ancien maire socialiste de Sarcelles, François Pupponi.
Je prends des termes très précis. Le lundi 11 mai, les parents d'élèves vont accompagner les enfants. Et donc, ces parents d'élèves devront eux-mêmes avoir un masque pour se protéger.
Pas de réponse sur les masques. En revanche, sur les tests, le ministre de la Santé a dû monter 4 fois au front pour dire la même chose. Olivier Véran répond là à la députée LR, Brigitte Koester.
Imaginons, Madame Koester, que néanmoins, je vous dise, très bien, on va vous dépister. Vous êtes négative, Madame Koester. Demain, vous revenez me voir, j'ai pris le bus, j'ai fait des courses, je veux savoir si je suis positive ou négative, et le jour suivant aussi, Madame Koester, ça n'a pas de sens.
La ministre du Travail n'est pas épargnée, Alexis Corbière pour la France Insoumise.
Quel est votre avis sur les déclarations, notamment de votre collègue qui pense que nous devons travailler plus? Le monde d'après ne peut pas être celui d'aujourd'hui en pire.
Beaucoup de questions sans vraie réponse, et le Premier ministre en convient.
La vérité, c'est que le président de la République a demandé au gouvernement de préparer un plan complet de sortie. J'aurai l'occasion de le présenter quand il sera prêt.
Tout en réaffirmant ce qu'a dit le président de la République, un début de confinement le 11, là où ce sera possible, si et seulement si, c'est sanitairement possible.
Tout de même, hier soir, le ministre de l'Éducation nationale a donné quelques pistes pour la reprise des cours. C'était dans le 20h de France 2.
Il ne s'agit pas évidemment de retrouver la situation d'avant, du jour au lendemain, le 11 mai. C'est forcément progressif et c'est forcément un peu allégé par rapport à ce que l'on connaissait auparavant. Alors, justement, ce dont on va parler au cours des deux prochaines semaines, il y a plusieurs idées, plusieurs possibilités qui sont là. D'abord, les élèves peut-être ne rentreront pas exactement au même moment selon leur niveau, selon leur âge. C'est un premier point. D'ailleurs, le président hier a bien dit crèche, école, puis collège et lycée. On peut aussi avoir des considérations particulières pour certaines catégories d'élèves. Je pense particulièrement aux lycéens professionnels qui sont les plus décrocheurs aujourd'hui dans le contexte de confinement que nous vivons. On peut aussi avoir des considérations de nature territoriale. Il y a des régions de France beaucoup moins touchées que d'autres et donc on peut regarder aussi ce qu'il en est.
Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer et nos voisins européens, comment font-ils pour ouvrir leurs écoles? Gros plan ce matin sur le modèle danois puisque justement, crèches et écoles rouvrent progressivement ce matin. Les 6 millions d'habitants sont confinés depuis un mois. Les autorités misent sur un retour progressif à la normale dans l'espoir d'immuniser petit à petit la population. Une stratégie approuvée par les familles. Reportage de notre envoyé spécial Ludovic Piétenu à Aarhus, au nord du Danemark.
Des classes par tout petit groupe et autant que possible en plein air, en respectant au maximum les règles d'hygiène, voilà les quelques mesures prises pour le retour des élèves. C'était une décision plutôt facile, dit Johan, ce père de 2 enfants de 3 et 6 ans. Nos hôpitaux semblent maîtriser la situation, ça paraît le bon moment pour attraper ce virus. C'est maintenant qu'il faut mettre nos enfants dehors et les exposer, parce qu'ils l'auront de toute façon tôt ou tard. L'annonce la semaine dernière de cette rentrée n'a pas provoqué d'opposition massive. massive chez les parents d'élèves, expliquent Simon et Frédéric, deux Français installés au Danemark.
Ici, les gens, c'est simple, ils font simplement confiance en leur gouvernement, les gouvernements font confiance en eux, donc il n'y a pas de pression. On ne va pas commencer à les marteler avec de la propagande de peur comme ils font en France.
Ils font ça étape par étape, mais au moins ça rassure les gens.
Ce retour à l'école ce matin pour les enfants de moins de 11 ans n'est pas une obligation, mais pour certains parents, une aubaine pour qui cela signifie la possibilité de retourner au travail. C'est aussi un choix économique que fait le Danemark pour ne pas ajouter, disent ses gouvernants, de la crise à la crise. Arus, Ludovic Piétenu, France Inter.
Les questions en France sont d'autant plus vives que les chiffres ne sont pas bons, avec 762 décès au cours des dernières 24 heures et le cap des 15 000 morts franchis. L'espoir vient du nombre de malades en réanimation qui continue de diminuer, moins 91 en 24 heures. Alors dans ces conditions, comment éviter la propagation du virus? En isolant les personnes infectées et testées positives. L'objectif est de pouvoir effectuer 200 000 tests par semaine, a dit hier le ministre de la Santé. Et les malades qui n'ont pas besoin d'être hospitalisés pourraient être installés dans des hôtels pour éviter de contaminer leur famille. Des chambres, Philippe Lefebvre, pourraient ainsi être réquisitionnées.
On en est encore très loin puisqu'en France, un seul hôtel à Perpignan a accueilli ces jours derniers une trentaine de patients en phase de guérison. Pourtant, un protocole a été signé entre les pouvoirs publics et l'UMI, le principal syndicat de l'hôtellerie, pour organiser cet accueil, et les hôteliers comme Laurent Duc à Lyon se disent prêts à rouvrir très vite leurs établissements en cas de réquisition.
Moi, en 24 heures, j'ouvre mon hôtel, moi. Personnel, on leur dit que c'est terminé le chômage partiel. Ils reviennent et on les remet en place. On va mettre en place des protocoles de travail où on va pas faire croiser les flux. On aura du personnel qui sera là pour déshabiller des chambres après que les clients soient partis entre 24 et 36 heures après, donc si vous voulez, la barrière sanitaire, on l'aura faite, avec du matériel adapté et des conditions assez drastiques, on doit pouvoir travailler sans danger et sans rencontrer les clients surtout.
Ce protocole précise que 50% des chambres d'un établissement doivent être utilisées, il fixe également les tarifs de 30 à 75 euros par nuit, intégralement payé par l'État. Mais pour le moment, aucun hôtelier n'a été contacté, alors que plusieurs élus réclament depuis plusieurs jours que ce système soit mis en œuvre rapidement.
Et ce serait aussi une aide bienvenue pour les hôteliers particulièrement touchés par la crise. Le gouvernement doit justement présenter aujourd'hui en Conseil des ministres le projet de budget rectificatif. Le montant total des mesures de soutien à l'économie devrait encore être relevé pour atteindre les 110 milliards d'euros. Dans ce contexte économique tendu, Amazon est dans le collimateur des autorités françaises depuis plusieurs jours, d'abord pour le non-respect des mesures barrières dans les entrepôts, et à présent, la justice oblige le géant américain à ne livrer en France que des produits médicaux, d'hygiène ou alimentaires. Pas de restrictions de ce genre aux États-Unis, où le géant du commerce en ligne est l'un des rares à profiter de la crise. Pour faire face à la demande, il s'apprête même à recruter 75 000 personnes, après en avoir déjà embauché 100 000 le mois dernier. Loïc Piala est à Los Angeles pour France Inter.
To all of our Amazon retail heroes.
Amazon vient de s'offrir une publicité pour remercier ses manutentionnaires et ses livreurs, ses héros, dit le spot.
Thank you.
Joignant l'acte à la parole, la firme de Seattle a augmenté son salaire minimum de 2 dollars par heure. Surveiller la température des employés des entrepôts, fait de la place en salle de pause, mise à disposition masques et lingettes. Elle a même créé un laboratoire pour développer ses propres tests. Mais dans les médias américains, des salariés dénoncent une réalité pas toujours conforme aux annonces. Difficile par exemple de garder ses distances avec le rythme de travail imposé. 3 personnes ayant critiqué les conditions sanitaires ont été renvoyées. Et le 25 mars, 14 États américains ont jugé inadaptée la politique de congé maladie du géant de l'e-commerce. Des salariés voudraient aussi que l'entreprise revoie ses priorités de stockage.
They should not be selling non-essential items. If you go...
Tous les produits essentiels sont déjà vendus, lance cet employé du Michigan, demandant que son entrepôt soit désinfecté. Alors en attendant, on ne devrait pas vendre de produits non essentiels, dit-il. Les vibromasseurs ne sont pas essentiels, par exemple. Les livres pour enfants, oui, mais les vibromasseurs, non.
Dildos, non.
Les consommateurs d'Amazon auraient dépensé 35% de plus sur le site qu'à la même période l'an dernier. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Aux États-Unis encore, Donald Trump a mis ses menaces à exécution en suspendant la contribution américaine à l'Organisation mondiale de la santé. Washington verse plus de 400 millions de dollars par an à l'OMS, accusé de mauvaise gestion de l'épidémie et de dissimulation sur la propagation du virus.
Retour en France, il est 7h09, Agnès, avec une nouvelle polémique lancée par le professeur Raoult à Marseille.
Dans une vidéo publiée hier sur Twitter, le professeur marseillais affirme effectivement que l'épidémie de coronavirus est en train de disparaître. disparaître dans la cité phocéenne.
Pour nous, l'épidémie est en train de disparaître progressivement, donc à une diminution très très significative du nombre de cas détectés. Il est possible que l'épidémie disparaisse au printemps et que d'ici quelques semaines, il n'y ait plus de cas pour des raisons qui sont extrêmement étranges et qui sont des choses qu'on a l'habitude de voir pour la plupart des maladies virales respiratoires. Donc c'est assez banal.
Une affirmation aussitôt démentie par le responsable de l'Agence régionale de santé en PACA, Philippe Demester, pour qui il ne faut surtout pas baisser la garde.
Il est tout à fait prématuré de pouvoir faire des pronostics sur la fin de l'épidémie. Nous n'en savons rien, malheureusement. Et au moment où on demande aux personnes de faire encore un effort, on ne peut pas être aussi catégorique. Nous enregistrons, c'est vrai, depuis quelques jours, une diminution de la progression de l'épidémie. Une diminution de la progression, donc pas du tout une régression. Ce qui veut dire que l'épidémie va se poursuivre, va régresser, mais ça va encore prendre des semaines.
Un dossier réalisé par Camille Payan. Il y a un an, Notre-Dame de Paris, un incendie ravageait la charpente et la flèche de ce joyau de l'art gothique. Les travaux sont aujourd'hui à l'arrêt, mais la cloche sonnera ce soir à 20h en hommage aux soignants. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30. Un Tour de France en septembre. Décidément, nos habitudes en prennent un coup. Le départ de la Grande Boucle devrait être repoussé au 29 août. C'est une information du quotidien Le Dauphiné Libéré que nous sommes en mesure de vous confirmer ce matin. Même si l'Union cycliste international doit encore donner son accord. Bonjour Fabrice Rigobert.
Bonjour Agnès.
La décision de repousser à fin août le départ du Tour, Fabrice, est le fruit d'une très longue réflexion.
Oui, depuis le début du confinement, les organisateurs de la Grande Boucle ont consulté de nombreuses fois les différents acteurs du monde cycliste, les équipes, les maires des différentes villes étapes, la Fédération internationale qui gère le calendrier international. L'hypothèse d'un tour à huis clos, un temps évoqué, a été balayée et le choix d'un départ fin août est rapidement apparu comme la meilleure des solutions une fois annoncée la décision du président de la République de prolonger l'interdiction des rassemblements publics jusqu'au 15 juillet prochain. La date du 29 août offre en fait le plus de garanties possibles pour que le tour se déroule dans de bonnes conditions avec la rentrée scolaire. Le public, plus de 11 millions chaque année au mois de juillet, sera moins présent au bord des routes, ce qui facilitera le respect des mesures de distanciation encore en place et les coureurs devraient ainsi disposer d'un minimum de temps pour se préparer. Une situation inédite pour sauver la fragile économie du cyclisme qui espère pouvoir étirer sa saison jusqu'à fin novembre en reprogrammant notamment ses monuments du printemps comme Milan-San Remo, le Tour des Flandres ou encore Paris-Roubaix.
Merci Fabrice Rigobert et rendez-vous donc le 20 septembre pour une arrivée sur les Champs-Élysées. Vous n'avez pas pu échapper depuis le début du confinement à une multitude de vidéos plus ou moins réussies qui tournent en dérision notre quotidien d'humains désormais confinés. À Lyon, Olivier Ray dirige depuis 8 ans le Lavoir Public, un lieu culturel dans le quartier de la Croix-Rousse et il a créé sur le web une chaîne de télé éphémère, Confinage TV, qui rend hommage avec le sourire à la télévision des années 80, source, il est vrai, inépuisable d'inspiration. Stéphane Capron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Confinage TV, la télé qui nous permet de garder du lien.
Vanessa Laspicrine présente tous les jours les programmes de cette web TV qui puise son inspiration dans les grandes émissions vintage du petit écran. On y retrouve par exemple Tournée Mélange, un pastiche de Tournée Manège avec à l'orgue un Charlie Oleg rebaptisé Charlie Rolex.
Je suis célibataire et confiné dans mon camping-car studio. Donc le principe, c'est que je vais vous interpréter des airs très connus.
Olivier Ray, metteur en scène de théâtre, s'est improvisé le temps du confinement, directeur de chaîne de télé.
C'est avant tout une façon de se retrouver, un peu comme on pouvait se retrouver au café du coin. Il y a un côté un peu télé de quartier. L'idée, c'est aussi de modestement d'apporter notre contribution à cette époque un petit peu anxiogène. C'est de faire un peu les clowns sur Internet. Ce qui n'empêche pas d'avoir un petit peu d'intelligence, puisque notre programme sont aussi un clin d'œil ou un hommage à une époque où le divertissement ne faisait pas forcément l'impasse sur la culture, on va dire.
Dans la grille des programmes figure effectivement Limitrophe, un pastiche d'apostrophe avec en invité de vrais écrivains, mais aussi des émissions interactives comme le Co-Voice 19 et Jim Kovic pour se dégourdir les jambes.
On s'en lasse pas, Nicolas, et tous les détails sur Confinage TV sont à retrouver sur franceinter.fr.
Merci Agnès Soubiran.